şey başkası. إن الحمد لله سبحانه وتعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من اهتدى بهديه وتمسك بما كان عليه إلى يوم الفصل نكما صنشا بينمي d'estimer nos gratitudes à Allah, Allahu Azza wa Jal, qui nous a permis de compter nos pas ce soir dans cette maison, qui compte parmi les bâtisses qu'on a édifiées sur la terre pour que le nom d'Allah soit élevé, et donc Allah fait l'éloge de ceux qui les fréquentent. Lorsqu'il dit dans ce verset du Noble Coran, إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ الآية. Allah subhanahu wa ta'ala dit ceux qui peuplent les mosquées sont ceux-là qui ont cru en Allah. Mais maintenant, nous avons aussi à l'égard des responsables de cette mosquée qui accordent à leur père de venir ne serait-ce que de manière mensuelle, partager avec le bien-aimé dans la foi ces échanges qui, sans nul doute, avec l'aide d'Allah, nous permettent d'établir une visée strictement religieuse qui est la fraternité. Vous savez, lorsque les gens y discutent au sujet de la religion, leur cœur se rassemble, contrairement à des débats qui tournent autour des business, des affaires. Parfois, on se sépare en queue de poisson, surtout lorsque les échanges ne sont pas bien respectés. Mais chaque fois que c'est la religion qui nous rassemble, c'est comme si ça applique la parole du messager d'Allah, qui dit ça à l'Ouminin. Mais selon la version, Masal al-Ouminin, في توضيهم وتراهمهم وتعطفهم كالجسد واحد إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الجسد بهما الصهرة أو صهرة والهما وكلمة النهر في فرق القرآن dans leur amour, dans leur amitié, dans leur fraternité, dans leur sympathie comme un seul corps de samar, comme un seul corps. Si une partie du corps est malade, c'est tout le restant de corps qui souffre de fièvre d'insomnie. Ces artistes, sans nul doute, nous permettent de réaliser cette visée ultime qui nous propulse très loin dans cette parole d'Allah à travers un hadith transcendant. Allah dit « Wajibat mahabbati lil mutahabbi nasiyya » Allah prend l'engagement d'aimer tous qui vont s'aimer en lui. Dès que les gens s'aiment en Allah, Allah aussi accorde à ceux qui son amour. Mes remerciements aussi s'en vont à vos égards. La shkurullah, ma la shkurunnas. N'est pas reconnaissant envers Allah, celui qui n'est pas envers les hommes. Du fait que vous avez certainement abandonné certains programmes de routine. Il faut voir comment les enfants ont passé la journée, discuter de telles questions, essayer de résoudre tel problème, essayer de s'accorder pour tel autre, parfois hors des murs de la mosquée, mais vous avez préféré accorder votre temps pour qu'on se rassemble ici. Vous avez remarqué cette réalité inéluctable. L'être humain ne peut jamais vivre sans croyance. C'est impossible. Si vous allez dans certains villages retirés, Il n'y a même pas d'infrastructure. Il n'y a pas de l'eau qu'on tire à travers les tuyaux. Il n'y a pas d'électricité. C'est-à-dire comme dans la vieille époque, mais vous trouverez quand même quelques symboles de spiritualité. Un arbre derrière la maison qu'on appelle l'arbre sacré. Une rivière avant de traverser, on fait quelques petits rites. Une forêt qu'on appelle la forêt sacrée. Une certaine pierre au coin de la maison dont on a certains étiquettes. Et certaines histoires qu'on rapporte tout le temps au sujet des ancêtres, des choses comme ça. Parce que l'homme ne peut pas vivre sans croyance, c'est impossible. Mais une chose est vraie, il existe une seule croyance vraie et de fausses croyances. C'est-à-dire ce qu'on appelle un aqida sahiha et des étiquettes bafila. Très mauvaise croyance. La venue des messagers dans le monde consiste à corriger aux gens le mauvais concept de foi. Avant toute autre chose, c'est pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, toute sa mission du début à la fin, n'avait de manière générale que sur ces principes. De corriger la croyance et d'orienter les gens dans le dogme authentique. Il est venu avec ce qu'on appelle la théorie. Cette théorie, c'est l'ifradullah, bima yaqtassu bihi, min ar-rububiyya, wal-uluhiyya, wal-asma'i wa-sifat, qui consiste à rendre Allah unique dans ce qu'il est spécifique, dans la Seigneurie. Sa divinité, ses dons et ses attributs. Prêtez bien attention sur cette définition. Ifradullah bima yakhtass bihi. Rendre Allah unique dans ce qui est spécial, dans ce qui est spécifique. Dans sa Seigneurie, dans l'adoration qu'est la divinité et dans ses noms et ses attributs. Parce qu'effectivement, lorsque les savants ont fait ce qu'on appelle la tadabbur wa al-istiqra', en fouillant les textes révélés en fond en comble, comme ceux qui veillaient sur la langue arabe, entrer dans les discours des grands-parents, ils se sont rendus compte que le Coran, quand il parle du respect de l'unicité d'Allah, table sur les toits. Le tawhid ar-rububiyya, qui de manière générale concerne les actes d'Allah, dans lesquels il est unique, la création, la subsistance, la souveraineté, la gouvernance, al-khalq, wa-rizq, wa-al-mulk, wa-tadabbur, al-umur. Cette forme d'unicité d'Allah, les gens n'ont pas fait des polémiques sur elle. La plupart des êtres humains se sont accordés ici, excepté quelques petits farceurs, comme Pharaon et autres, qui en réalité, lorsqu'ils ont rejeté cette forme d'unicité d'Allah, les savants disent « Inadan wa takabburan » simplement pour orgueil. Mais du fin fond de l'âme, lorsque Pharaon dit « Rabbukum al-A'la » lui-même sait pertinemment que c'est un mensonge. Peu de gens ont mécru à ça. Certains communistes, qui ne connaissent pas Allah aussi, ils ont emprunté la même voie que Pharaon. Ils ont mépris à la Seigneurie d'Allah. Alors même les koufars de Quraysh et le commun des Arabes, ils ont fixé ça très bien. Wala in sa'altahum man khalaqahum sayaquluna Allah. Wala in sa'altahum kaza wa kaza sayaquluna Allah. Si tu leur demandes qui les a créés, ils disaient c'est Allah. Ils adoraient Allah, Uzza, Emanat et Hubal. Et 360 idoles en dehors d'Allah, ça c'était autour de la Kaaba et dans d'autres petits villages, ils adoraient d'autres divinités. Mais, au niveau de la Syrie, ils n'avaient pas de problème. Allah a beaucoup valorisé cette espèce dans le tawhid, dans le Coran, que la plupart des chapitres mécois tablent beaucoup sur ça. Va dans beaucoup de versets, Afaraitum Kaza, Afaraitum Kaza, Afaraitum Kaza, ne voyez-vous pas ça, ne voyez-vous pas telle chose, Wahakaz. Et maintenant, vous avez le théorie dans l'adoration qu'on appelle théorie d'Al-Ibad, Al-Ibad al-Tawhid al-Uluhiyya, qui, contrairement au premier, n'est pas, c'est-à-dire, table sur les actes des serviteurs. Si la première forme table sur les actes d'Allah, où il est unique, il est le seul créateur, le seul qui pourvoit la subsistance, parce qu'il y a encore des gens dans des petits villages, Mal-Asaf Shadid, qui pensent que s'ils peuvent manger, c'est parce qu'ils maîtrisent la statistique ou l'économie ou la gérance des choses. Ce n'est pas vrai. La vérité, c'est que c'est Allah qui est le pouvoir, la subsistance. Sinon, autour de nous, il y a des gens qui font plus d'efforts que nous. Ils n'ont pas ce qu'Allah nous a donné. C'est vrai. C'est pourquoi le poète arabe dit « L'okanat al-arzak min al-hija, la matat al-baha'im » Si la subsistance dépendait de l'intelligence, les bêtes allaient toutes mourir de famine. Mais Allah dit « Inna allaha huwa razzaq zul kuwati matinei shadid kuwa inna allaha huwa razzaq » C'est Allah qui est le pouvoir de la subsistance. Ici, les gens n'ont pas beaucoup rejeté ça. Mais ici, lorsqu'il fallait revenir à Allah, à confirmer les implications de cette première forme de respect de l'unité d'Allah où je reconnais qu'Allah est mon créateur, au lieu d'adorer Allah, la masse des gens du monde se sont mis à adorer autre qu'Allah. Et Allah a envoyé donc des prophètes, des messagers, pour amener les gens à l'adoration d'Allah. « Wa laqad ba'athna fi kulli ummati rasulan an i'budu Allah wa ijtanibu at-taghut » Allah dit qu'il a envoyé à toute communauté un messager qui leur dit « Adorez Allah et écartez-vous de tout ce qu'on adore en dehors d'Allah. » Et chaque prophète, quand il arrive à son peuple, « Ya qawm i'budu Allah, ma lakum min ilahin ghayruhu » Mais faire adorer Allah, vous n'avez pas en dehors de lui une autre divinité. Et lorsque les Hades se sont plaints, hein, au sujet de leur frère Houd, qu'Allah envoie aux Hades, ils se sont plaints vers lui, ils ont dit, « Adi'tana, lina'bud Allah wahda, wa nadana ma kana ya'budu aba'una, fa'tina bima ta'iduna in kumta min as-sadiqin. » Tu es venu vers nous demander d'adorer Allah seul. C'est vrai, c'est sa mission. Et de délaisser ce que nos ancêtres adoraient, apporte-nous ce que tu nous menaces, si tu es véridique. Allah renchérit ça dans l'autre verset, dit « Wa ila adin akhahum huda khala ya qawmi i'budullah malakum min ilahin ghayruh » Mais au Ad, là, c'est Houd qui l'a dit « Mes frères, adorez Allah, vous n'avez pas en dehors d'Allah une autre divinité. » C'est ici, n'est-ce pas, c'est-à-dire la voie de divergence entre les prophètes et leurs peuples. À partir du moment où vous dites que c'est Allah votre créateur, ne pensez pas que c'est une parole qu'on profère avec la langue qui n'a pas des implications. C'est maladroit, et c'est malhonnête, et c'est pas agréable que vous reconnaissez Allah comme votre créateur. Vous allez vous placer devant des pierres et des arbres que vous avez façonnés avec vos mains, comme si vous n'avez jamais rencontré la parole d'Ibrahim alayhi salatu wasalam, qu'Allah ramène dans le Coran, qu'il adresse à son peuple, « Ata'abuduna ma tanhitoun, wallahu khalaqakum wa ma ta'amaloun » Adorerez-vous ce que vous avez sculpté avec vos propres mains, alors que c'est Allah qui vous a créé, vous et tout ce que vous faites. Quelqu'un va dans la brousse, il a bas un arbre, lui-même il fait une image. Regardez le rizlan du shirk, wallah. Lui-même il façonne, hein, la sculpture, lui-même il façonne. Ça prouve qu'il est fort. Abattre un arbre dans la brousse, c'est pas que tu te lèves le matin, le soir, ça passe. Surtout à l'époque où il n'y avait pas de scie à métaux, des choses pareilles. Lui-même, il va abattre l'arbre, il vient sécher l'arbre. Lui-même, il se met à faire des images. Lui-même, il porte l'arbre, il va poser à un endroit, et c'est lui qui revient avec un bélier immolé, et dit, je donne l'offrande à Dieu. Subhanallah, il a dit. Et il dit, lui-même, il revient avec le lait, il dit, je donne l'offrande à Dieu. Une divinité que tu fabriques de tes mains, le plus fort se met à adorer le plus faible. Le façonneur adore le façonné. C'était pourquoi Allah a envoyé les messagers pour amener les gens à l'ordre. Et c'était ça donc la polémique entre les prophètes et les envoyés. Ce n'était pas sur la Seigneurie. Les prophètes n'avaient pas trouvé des gens qui me croient à la Seigneurie d'Allah. Il a nadira. Tout le monde était unanime que c'est Allah qui fait descendre l'eau du ciel. Mais maintenant, le véritable problème se retrouvait sur l'adoration. Et puis maintenant, vous avez une autre forme d'unicité, toujours mimba du tétabou, ou l'istikrar, l'unicité dans les noms et les attributs. C'est ici que, contrairement aux deux premiers, les gens de la maison de l'islam eux-mêmes se sont encore fragmentés.
Parce que beaucoup ont voulu dévancer, écoutez très bien ce que je dis maintenant, beaucoup ont voulu dévancer la raison à la révélation. Ils ont pensé qu'avec la raison, on peut cerner toutes choses et on peut confronter les textes révélés. Et ces choses-là sont restées jusqu'à aujourd'hui. Dès que quelqu'un a des diplômes, il lit pas mal de trucs, il fait pas mal de voyages, ne mentionne pas un hadith qui n'épouse pas sa raison. Il va commencer à vous parler de la logique cartésienne, et puis il va te frapper d'un revers de la main la logique contemporaine, il va te dire que Descartes, lui, n'avait pas vu comme ça, il va te dire que Jean-Paul Sartre, l'existentialiste, lui, a préféré ceci. Et vous allez voir, ces gens vont commencer à phagocyter la religion au nom des actes de la raison. Faites très attention, la raison n'est pas un instrument de jugement, mais c'est un instrument de compréhension, comme la vue. Et lui, la raison aussi a une limite. C'est pourquoi il faut se soumettre à la révélation, et non pas à la raison. Tous ces gens qu'on appelle les mutakallimoun et autres, c'était ça leur maladie. Dès qu'ils trouvent dans le Coran quelque chose qui ne pousse pas sa raison, ils ont commencé à nier les évidences. Ils ont commencé à nier le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les sahih et autres. Le hadith, c'est vrai, le hadith n'a pas de makhal, c'est un hadith sahih. Parmi les hadiths d'Abi Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Iza jalasa ahadukum fi tashawud al-akhir, falasta'id billahi min arba. » Si l'un de vous s'assoit dernier tashawud dans la prière, qui cherche refuge auprès d'Allah contre quatre et qui dit « Allahumma, inni a'udhu bika min azab jahannam wa min azab al-qabr. » ومن فتنة المحيا والممات ومن شر ما فتنة المسيح الدجال. Quel l'un de vous cherche refuge auprès d'Allah contre toi et qui dit oh Allah mon Seigneur, Allah mon Dieu, je cherche refuge auprès de toi contre le châtiment de l'enfer, le châtiment de la tombe, le châtiment, c'est-à-dire les tentations de la vie et de la mort et les tentations du faux messie. Ils ont dit non, le châtiment de la tombe n'existe pas. Comment est-ce qu'Allah châtie dans la tombe? Et ils ont commencé à refuser les hadiths. Répandu quand même des enfants mémorisent. Lorsque les gens qui viennent nous enterrer s'en vont, Allah envoie deux anges qui viennent nous faire asseoir. Ils disent non, comment est-ce qu'on peut s'asseoir? J'ai la terre au-dessus de nous. Si on m'a mis dans le lard, on a fermé, comment ils viennent me faire asseoir? Il y a la terre qui... Subhanallah. Ils ont commencé à dévancer le texte révélé à la raison et ils ont refusé des hadiths authentiques. Et c'est à cause de ça qu'ils ont... N'est-ce pas, ça dit porter atteinte à cette rubrique-ci qui, n'est-ce pas, constitue la science des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et beaucoup de ces groupements sont nés, n'est-ce pas, ça dit les Jahmiyyah, les Ash'ariyyah, les Maturidiyyah, les Mu'tazila, n'est-ce pas, ça dit tous ces Mouchangiboun al-Ghashamsham, les Qadariyyah, n'est-ce pas, les Jabriyyah, tous ces petits bandits, ils sont nés. Parce qu'ils ont voulu dévancer la raison à la révélation. Yahri, quand nous entrons dans les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, la première des choses qu'il faut savoir, c'est que c'est Allah qui nous parle de lui-même. Et Allah est plus savant de lui que nous. C'est lui qui nous dit qu'il a créé Adam avec les mains, on se plie, il a créé Adam avec les mains. Maintenant, il nous dit ailleurs, laisse à Kamis Nihé, rien ne lui ressemble. On ne peut donc plus chercher à réfléchir comment sont les mains d'Allah. L'essentiel est de savoir qu'il a créé Adam avec ses mains. Nous, on croit à ça, parce que c'est lui qui nous a parlé de lui. C'est lui qui nous a donné l'information à son sujet. Lui connaît son être mieux que nous. Donc tout ce qui nous vient d'Allah, ces informations, et c'est pourquoi dans le Coran compilé, vous avez directement dans Surat al-Baqara, Allahina yu'minuna bil ghaibi. Tu crois à l'invisible. Rêve, il y a quelque chose que tu ne vois pas. Tu crois à l'invisible, c'est le asle, la base de l'invisible, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut donc savoir que la déchirure même dans la maison de l'islam, c'est ce rubrique des noms et des attributs d'Allah. Et malheureusement, comme nous l'avons signifié, beaucoup ont chuté parce qu'ils ont mis la révélation derrière la raison. Et comme disaient certains de nos grands savants, ils ont fui l'étincelle pour tomber dans le feu. Parce que d'autres disaient, mais comment? Si tu dis qu'Allah a la main, tu es en train de dire qu'Allah est comme sa créature. Là, c'est pas ça. Ça n'a rien à voir. C'est pourquoi l'un des plus grands versets du Coran, dans cette rubrique, Allah dit laisse à Talib l'Ishé wa wa al-Sami' al-Basir. Regardez dans ce monde-là, al-Sami' al-Basir. Tous les animaux, toutes les créatures qu'Allah a créées voient et entendent. Mais chacun d'entre nous sait que La manière dont l'éléphant entend, ce n'est pas la même manière que le pangolin. Ce n'est pas la même manière que le coq. Ce n'est pas la même manière que le lièvre. Ce n'est pas la même manière que le sanglier. Ce n'est pas la même manière que les chiens. Et c'est la même chose dans l'audition. Là, il y a des animaux qui ont une audition très fine, très très fine, par rapport à d'autres. Si entre les petites créatures, il y a cette différence-là, à plus forte raison entre la créature et le créateur. Là, lorsqu'il parle de lui, il dit qu'il est audient et clairvoyant. Mais lorsqu'il a parlé de notre père Adam, lorsqu'il a créé Adam, il dit « Allah Hussami al-Basira ». Nous l'avons créé aussi audient et clairvoyant, à la seule différence que la clairvoyance d'Adam n'est pas comme celle d'Allah, l'audition d'Adam n'est pas comme l'audition d'Allah. La preuve, c'est que Adam, étant tenu ici, il ne peut pas entendre ce qui se passe de l'autre côté là-bas, dans un autre quartier, alors qu'Allah, lui, l'entend, le bruit d'un de ses serviteurs, dans la mer, dans l'oiseau, au fin fond, dans le ventre d'un poisson, au fin fond de la mer. Et lui, il est au-dessus de son trône. Et il entend, n'est-ce pas, c'est-à-dire l'imploration de son prophète, n'est-ce pas, c'est-à-dire dans le ventre du poisson, n'est-ce pas, c'est-à-dire Younous, dans la mer, au fin fond de la mer, pas seulement dans un endroit comme ça de l'eau, dans le ventre du poisson. Allah dit, فَاسْتَجَبْنَا لَهُ, nous l'avons exaucé. On a donc appelé ça, مُشْتَرِكُنْ لَبْ. C'est les termes qui sont pareils, mais les sens sont différents. Et il faut admettre ça de manière élémentaire. Lorsque nous parlons donc, mes chers bien-aimés, des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? Les savants disent kalimatu dal ala zatihi wa sifatihi. Il s'agit des mots qui indiquent, mais ça, c'est-à-dire l'être d'Allah subhanahu wa ta'ala et ses attributs. C'est ça en fait, les noms d'Allah. Ce sont des mots qui indiquent, mais ça, c'est-à-dire l'être d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça l'indique et ça indique aussi ses attributs. Vous comprendrez qu'entre les sifat et les asma, il y a des généralités, des spécificités. La Bouddha ayakuna antarik al-wahi. Et les noms que nous devons donner à Allah subhanahu wa ta'ala sont des noms qui doivent être à la base ici de la révélation. Dans le Coran, dans les hadiths authentiques, faites très attention. On ne les prend ni dans les hadiths daïf, les hadiths faibles, ni dans les kira'at shaz, c'est-à-dire des lectures du Coran shaz, c'est-à-dire, vous savez qu'il y a des kira'at shaz, vous avez, n'est-ce pas, des kira'at, des lectures du Coran, des manières de lire du Coran conventionnel, qui sont les sept kira'at, comme mentionné dans Shatibiya, on ajoute aussi trois, comme ça, qui peuvent être admis, mais après ça, il y a des kira'at shaz, qui ne sont pas conventionnels. Si vous trouvez un nom d'Allah dans ces kira'at shaz, les muhakikoun, c'est-à-dire les savants dignes de confiance, vous disent, on ne peut pas prendre le nom d'Allah dans ce genre d'affaires. Et c'est à cause de ça, vous voyez comment beaucoup de gens sont tombés par rapport à ce qu'on disait encore là. Maintenant, vous prenez certains livres, même n'est-ce pas, c'est-à-dire des revues écrites par certains musulmans, je vous assure. Et quand ils parlent d'Allah, c'est comme vous avez vu les Descartes, là, disent le géomètre par excellence, le grand entrepreneur. Subhanallah. Wallah, ils disent ça. Allah, d'autres disent c'est l'ingénieur. D'autres disent c'est le grand entrepreneur. Subhanallah. Ça c'est haram. Et ça peut entrer dans le shirk. Même s'il est petit à la base, il peut devenir grand aussi. Parce que tous les péchés que vous connaissez dans le monde, les savants disent que ça a une seule cause, c'est de dire sur Allah ce dont on n'a pas de connaissance. Donc, et les noms que nous allons donner à Allah subhanahu wa ta'ala doivent être des noms parfaits. C'est à cause de ça que nous devons savoir que la rubrique des noms est plus étroite que la rubrique des attributs à la sifat. Comme les savants expliquent, chaque nom indique un attribut, mais ce n'est pas chaque attribut qui indique un nom. On va s'expliquer, Inch'Allah, si Allah nous le permettra. C'est-à-dire, chaque nom indique un attribut, mais ce n'est pas chaque attribut qui indique un nom. Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est très pertinent de connaître ce genre de règles dans cette rubrique-là. Maintenant, vous savez, quand on veut donc mentionner les attributs d'Allah, il faut que nous sachions que les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala sont en trois catégories. Il y en a qui sont parfaits à la tour. C'est-à-dire qu'ils connaissent la perfection. Sami' al-Basir, al-Hayat, n'est-ce pas, c'est-à-dire les vivants, wa hakaza, l'audient, al-Alim, al-Ilm, wa ma'ashba. Tous ces attributs d'Allah, la science, l'audition, tout ça, la vie sont des attributs parfaits. Mais il y a des attributs d'Allah, n'est-ce pas, c'est-à-dire, dont on ne peut pas nommer Allah subhanahu wa ta'ala avec ça. Et il n'est donc pas permis de l'invoquer avec ce genre d'attributs. Par exemple, Al-Khabir. Al-Khabir, c'est celui qui fait la ruse. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Yukhadi'un Allah, wallahu, khadi'uhu. Yani, la ruse là, on ne peut pas appeler Allah le ruseur. Parce que, en fait, c'est un attribut qui peut être parfait ou imparfait. De toutes les façons, quand on parle d'un être humain, on dit le gars, il est très rusé. Ce n'est pas toujours qu'on est en train de faire ses éloges. C'est parce qu'on le connaît comme un bon jongleur, là. Surtout s'il a pris ton argent. Il dit, Wallah, yahi, inshallah, yahi. Il te barbude là. Tu es convaincu que ton argent arrive. C'est peut-être du mal qui aime. Inshallah. Et puis, qu'est-ce qu'on dit? On dit, il est rusé. C'est pas qu'on est en train de faire ses éloges. Parce que la ruse n'est pas toujours quelque chose d'agréable, mais peut-être agréable aussi, de temps en temps. Donc on appelle ça des attributs de Muqabir. On ne peut pas invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, masalan, on ne peut pas appeler Allah al-Maqir. Ça dit, c'est presque la même chose. Allah dit, voyam kurun, voyam kurun, n'est-ce pas, ça dit, Allah parle de la ruse, voyam kurullah. Allah aussi, n'est-ce pas, ça dit, joue au malin avec eux. Mais on ne peut pas appeler Allah al-Maqir. Parce que c'est pas, ça sort de la règle des noms d'Allah qui doivent être parfaits tout le temps. Wow. Et puis, il y a un espace à dire, comme Allah dit dans le Coran, Nasullaha fanasiyahum. Ils ont oublié Allah, Allah les a oubliés. Est-ce qu'on peut appeler Allah l'oublier? Jamais de la vie. Wa ma kana rabbuka nasiya. Mais ici, c'est Muqabil. Ces gars-là, ils ont adopté des attitudes, ils ont désobéi à leur Seigneur. Allah, ça dit, ils ont oublié Allah, Allah les a oubliés, ça ne veut pas dire que Allah est indifférent ou insouciant de ce qu'ils font. Mais Allah fait en sorte que eux-là, ils ne pensent plus au bien, ils ne se reforment pas, wa hakaza. Donc il y a des attributs de cette manière. Et puis il y a des attributs qu'on ne peut jamais donner à Allah absolument. Et ça c'est dans le Coran. Par exemple, dans Ayatul Kursi, la ta'khudhu sina wa la nom. Il y a une sina nom ou khafif. Un sommeil léger, une somnolence n'a pas d'emprise sur Allah. On ne peut pas dire qu'Allah somnole, a'udhu billah, fadlan de dire qu'il dort. Mustahil, c'est naqis, ziddan, ziddan. Aswa, on ne peut pas appeler Allah comme ça. Il y a des attributs qu'on ne peut jamais donner à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hakaza. Fa fil haqiqa, il faut donc savoir que lorsqu'on parle des sifat, nu'utul kamal sont des attributs parfaits, ka'iman bizatihi ta'ala. Qui sont, n'est-ce pas, c'est-à-dire établis sur Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme ça qu'on essaie de voir la différence entre les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même si entre les deux, il y a des spécificités, il y a des généralités. Le thème qui nous était demandé de discuter, comment est-ce qu'on adore Allah avec ses noms sublimes? Il faut savoir que Allah lui-même, il nous encourage et Husna à l'invoquer avec ses noms. Allah dit dans les versets du Nouvel Coran, Walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha. Allah appartient les noms les plus sublimes, invoquez Allah par son nom. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith, Inna lillahi tis'a'u tis'ina isman mia ila wahid. Man ahsaha dakhala jannah. Allah subhanahu wa ta'ala 99 noms, 100 moins 1. Man ahsaha, celui qui fait l'ihsa'. Les savants disent qu'ils mémorisent ces 99 noms. Ils travaillent avec leur implication. Ils savent qu'Allah est audient. Il ne calomnie plus ses frères. Ils savent qu'Allah les scène partout où ils se trouvent. Il évite d'entrer dans les bars, les casinos et les mauvaises maisons. Ils savent qu'Allah subhanahu wa ta'ala, yani subhanallah, ça se dit, il n'a pas de rabbi qu'à la chadid. Il évite qu'Allah le trouve dans le péché à 15. Ils travaillent avec les implications de ce. Des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, dont il fait d'abord foi, celui-là entre au paradis. Parce qu'en réalité, mes chers frères, si les noms n'avaient pour valeur que la preuve tranchée de l'existence d'Allah, ça aurait suffi. C'est à travers les noms d'Allah qu'on conçoit l'existence d'Allah. Ça, c'est ce qui est plus proche du bien. De ce point de vue, il faut quand même savoir, mes chers frères, que lorsque nous venons dans le hadith où Allah a 99 noms. Nous devons tous concevoir que les noms d'Allah ne sont pas seulement 99. Parce qu'il y a ce qu'on appelle dans le soul, Jamu Ben Anusus. Allah n'a pas seulement 99 noms. Parce que dans un hadith, le prophète Allah nous enseigne un vocal là en disant As'aluka bi kulli ismin huwalak, samaita bihi nafsa, aw anzaltahu fi kitabik, wa 'allamtahu ahadan min khalqik, aw ista'tharta bihi fi 'ilmin ghaibi indak. Il demande à Allah par les noms qu'il s'est donné lui-même, ou qu'il a révélé à une créature, qu'il a enseigné dans un livre, ou alors qu'il s'est réservé lui-même dans la science du caché. Ce hadith est clair que Allah a des noms qu'il s'est réservé lui-même dont personne ne connaît. Le Messie, quand il invoque Allah par ses noms, il tient compte de cela. Des noms qu'il connaît, des noms qu'il ne connaît pas. Comment comprendre dans le hadith de 99? C'est comme si notre grand imam Cheikh Moussi, il vient ici à la mosquée, il dit Ramadan est proche, et Ramadan est proche. Il dit Inch'Allah, j'ai 500 000 pour la mosquée. Est-ce que quelqu'un d'entre nous est stupide de penser que tout ce qu'il a en tout et pour tout, c'est 500 000? Français vient tout donner à la mosquée. En réalité, on va tous comprendre que le Cheikh disait Allah Khairan, Allah lui a donné du dunya, mais dans tout ce qu'il a, il a réservé 500 000 pour la mosquée. C'est ça. C'est comme ça qu'il faut comprendre le hadith de 99 noms. Que dans la multitude des noms d'Allah, Allah a choisi 99 par sa miséricorde, en estimant que c'est facile pour ses serviteurs qui se trouvent dans le Coran, dans le hadith, qu'on peut mémoriser facilement et travailler avec l'Izillahi Rahman. En ce qui concerne dans les invocations avec les noms d'Allah, il faut d'abord vous rappeler, mes très chers frères, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a enseigné les invocations des prophètes et des messagers. Tous ils invoquent avec le nom d'Allah, Rab. Puisque ce que certains d'entre eux disaient, c'est le nom d'Allah le plus grand, Rab. Nos premiers parents, Allah tous les commencent. Rabbana, zalamna anfusana, wa lam taghfir lana wa tarhamna, lanakunanna min al-khasirin. Rabbana, Adam et Hawa, alayhim as-salam, disent Rabbana, notre Seigneur, nous avons fait du tort à nous. Le premier envoyé d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est nous, Hun alayhi salam, lui quand il demande à Allah avec le nom Rab, Rabbi Firli, Wali Wali Deya, Wali Mandakha la Bechia Mouminan. Ibrahim alayhi salatu wa salam, qui est parmi les Oulou l'Azmina Rousseau, le meilleur après le Prophète alayhi salam, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Rabbi Jnoubni wa Banaya Na'abdu al-Asnam. Allah préserve moi ainsi que mes descendants d'adorer les Rab. Et ce Rab est venu partout. Rabbi Shrali Sadri, Moussa alayhi salatu wa salam, Wahlul Urgat al-Milisani, Isa alayhi salam, Rabbana anzil alayna kaza wa kaza fi sama, Maïda, Rabbana, wa hakaza. Et si les croyants, leur invocation c'est ça. Allah dit yaquluna Rabbana asrifna azaba jahannam. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فكنا ذبنا les invocations de ربنا ربنا c'est venu beaucoup dans le Coran ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه انك لا تخلف الميعاد les envois d'Allah invoquent avec le ربنا jusqu'à ce que beaucoup de savants parfois mentionnent que c'est le nom de ce nom là qui n'est pas c'est-à-dire les noms yani le plus pertinent dans la dua. C'est pourquoi lorsque vous allez suivre l'invocation de notre prophète Zacharie, hein, vous allez compter combien de fois il va amener Rab. Zikru rahmati Rab, Zikru rahmati Rab, Zikru rahmati Rab, Zacharie, Iznada Rabbahu, Iznada Rabbahu, Nidaan Khafiya, Kala Rabbi, Inni wa ana al-azmu minni wa ashta'ala rasul, wa lam yakun bidaka Rabbi, Shakiya. Et vous voyez bien toujours avec cette rububiya, ce rububiya, ce nom d'Allah. Il vient avec le nom Seigneur, Seigneur, tout au long de sa requête. Il ne fait que mentionner le nom Seigneur, Seigneur, Rab, 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 wa hakev. C'est pourquoi certains savants ils ont dit, en réalité, on invoque Allah avec son nom Allah et avec le nom Rab, mais comme l'invocation est de deux sortes, et ces deux sortes vous les connaissez bien mes chers frères, il y a ce qu'on appelle dua l'ibada, dua l'ibada ou dua l'makala. Une invocation dite d'adoration, une invocation dite de requête. Il dit que quand on veut faire l'invocation dite d'adoration, on vient vers le Laf Jalal Allah. Et quand on fait l'invocation dite de requête, c'est mieux de venir avec Rab. Ça, c'est le choix de Mouhkikoun parmi les savants, tels qu'Ibn Qayyim al-Jawziya et son ancien, bien avant lui. Il voit que lorsque tu demandes à Allah des requêtes, c'est quoi l'invocation dite d'adoration? C'est tous ces actes que les croyants s'efforcent à accomplir. Est-ce que lorsque l'un de nous sort de sa maison pour venir à la mosquée, le fait de marcher vers la mosquée, verbalement tu ne dis rien, mais ta marche vers la mosquée constitue une demande. C'est ça ou c'est pas ça? Si quelqu'un vient à la mosquée, c'est parce qu'il a envie d'aller au paradis. Ça voilà. Parce qu'il a envie d'aller au paradis, même s'il ne dit rien, ça c'est une invocation en fait. S'il se prive de manger, de boire, d'aller avec sa femme en journée, c'est dans le mois de Ramadan, il se prive. Il délaisse un certain nombre de choses, il ne fait rien. Mais dans ce silence, dans cette abstinence, il y a une demande. C'est parce qu'il veut le paradis et veut échapper à l'enfer. Ça on appelle du'a al-ibada. C'est-à-dire c'est des actes d'adoration qu'on accomplit, qui sont en réalité une requête, mais une requête verbale, une requête contextuelle. C'est comme si on voit quelqu'un qui arrive devant la porte de la mosquée, les habits sont vieux, déchiquetés, mal fanés, tout ça. Même s'il ne dit rien, sa position à elle seule constitue une demande. Parce qu'on comprend que c'est quelqu'un de pas bien, c'est quelqu'un de mal en point, il a besoin de nous, même s'il n'a rien dit. Ça c'est ce soual bihal, bilisan ilhal. C'est-à-dire c'est son état. C'est la même chose. Beaucoup d'actes que nous avançons, nous sommes en train de demander à Allah. La chasse. Imaginez quelqu'un rencontre un orphelin en route. Il lui donne de l'argent. Mais cette action-là, c'est une demande à Allah. Allah bénis-moi mes biens, accorde-moi de tes faveurs, wa hakaza. Et surtout dans le hadith, manakasa malu abdin, une sadaka. Jamais les biens d'un serviteur n'ont diminué à cause d'une aumône. L'un vient de demander l'augmentation, même s'il ne dit pas de manière verbale, mais dans son acte. Donc, lorsqu'on entre dans les invocations, c'est-à-dire l'adoration, d'adoration, l'invocation d'adoration, le laps d'Allah Allah est mieux. Et si on veut faire vraiment une requête, demander, tous ces exemples dans le Coran avec le nom Rab nous suffit. Mais subhanallah, dans certaines invocations, le texte nous enseigne à rassembler entre les deux, parmi lesquelles l'une des meilleures invocations du monde, une des meilleures. Wallahi, nous avons entendu un jour de notre père et notre ancien, le Cheikh Docteur Hayatou Rabbana, Ahfazou Wara'ah, il nous a dit, subhanallah, cette parole est restée gravée dans nos cœurs. Il a dit, Hafizullah, que toutes les invocations que vous rencontrez dans les textes révélés, toutes ces invocations sont des invocations surérogatoires, excepté trois seulement, qui sont obligatoires, strictement obligatoires. La première invocation obligatoire, c'est la Sourate Al-Fatiha. La Sourate Al-Fatiha est une doua. Elle rassemble en même temps la doua al-Makh, la doua al-Ibada. La requête dans la Fatiha, c'est quoi? Ihdina Surat al-Mustaqim. Lakin lorsque quelqu'un dit Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, dans le Musnad d'Imam Ahmad bin Hanbal, ou dans le Sahih Muslim, et dans le Mu'atta d'Imam Malik, Allah dit Kassamtu Salah, Ben Wabena Abdi, Bissain. Allah dit qu'il a partagé la prière entre lui et son esclave en deux phases. Il a Abdi, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Kala Allah Ta'ala, Hamadan et Abdi. Si Allah dialogue avec le serviteur dans la Salah, c'est parce qu'il est en train de faire quelque chose de très fort. La Fatiha. Dans la Fatiha, si, c'est une invocation obligatoire. L'autre invocation obligatoire, c'est la prière sur le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa ala alayhi wa sallam. Elle est wajiba. Le jumhur des savants, le consensus des savants, le grand nombre des savants nous enseigne que la prière obligatoire n'est pas valable sauf si tu pries sur le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et maintenant, l'autre invocation obligatoire, c'est quoi? C'est l'imploration du pardon pour le péché. Il y a quelqu'un qui a commis un péché. À la toul, il doit demander pardon à Allah, yani wujuban, de manière obligatoire. Si tu as commis un péché, demande pardon à Allah. Et regardez, subhanallah, les formules de demande de pardon à Allah sont tellement nombreuses, mais la meilleure, c'est celle de l'istighfar. Allah, ça me dit, celui qui récite ça dans la nuit avant de dormir, s'il meurt, n'est-ce pas, c'est-à-dire au cours de la nuit en matinée, il meurt dans la fitra, c'est quelqu'un du paradis. S'il récite ça le matin, il meurt dans cette journée, il meurt, n'est-ce pas, c'est-à-dire dans la fitra, il meurt dans l'islam, c'est quelqu'un du paradis. S'il récite ça, n'est-ce pas, dans l'après-midi, il meurt, n'est-ce pas, cette nuit-là, il meurt dans la fitre, il meurt dans l'islam, c'est quelqu'un du paradis. À la seule différence, il faut faire très attention. Lorsque nous parlons du paradis, il y a deux entrées au paradis. La hawla wa la quwwata illa billah. Il y a une entrée, dukhul ulawi ala tul, quelqu'un entre directement. Mais notre entrée peut venir après avoir subi une bonne dose du châtiment. Parce que Allah Azzawajal va châtier certains croyants, la châte, avant de les introduire au paradis. Et c'est pourquoi on voit la valeur de la foi. Et dans le hadith, خُرِجُوا مِنْ جَهَنَّمْ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِ مِسْكَالَ ذَرَّ مِنْ إِمَانِ. Faites sortir du feu de l'enfer celui qui a dans son cœur le poids d'atomes de foi. À cause du poids d'atomes de foi dans le cœur, même si le croyant entre en enfer, il ne peut pas demeurer en enfer. Pour qu'il soit différent des mouchrikoun et des koufars, du ridoun, يَخْرُجُوا مَهُمْ بِخَارِجِنَ مِنْهَا. Quand ils aimeraient sortir de l'enfer, ils ne sortiront jamais. Ils vivront dans l'enfer, يَا سَلَامُ. Latine, celui qui a la foi même un peu, même s'il subit ce qu'il subit, mais tôt ou tard il sort de l'enfer. Si jamais il entre en enfer. Allah peut châtier dans la tombe, il peut châtier dans... Subhanallah, l'azim yani. Il s'agit de celui qui fait des péchés, il insiste, il persiste dans ses péchés, il ne demande pas pardon pour ses péchés, et Allah ne veut pas pardonner aussi. Parce que vous savez que quand le péché n'atteint pas le shirk, la parole d'Allah c'est quoi? يَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءَ. Le péché, s'il n'atteint pas le chiffre, c'est ta mashi'atillah. Mais aussi, Allah n'a pas voulu pardonner. Ce farceur, il persiste dans le péché. Il ne demande pas pardon à Allah. Et Allah ne veut pas pardonner aussi. Il va en enfer. Ou subir un châtiment. Maintenant, quand l'intersection de tous les intercesseurs viendra, y compris l'intersection d'Allah, qui est la dernière et la meilleure, et puis l'istighfar, Allah va décider de pardonner, Allah va intercéder à la rahma d'Allah, le tawfiq d'Allah. Allah va sortir celui-là du feu de l'enfer. Et beaucoup de choses permettront à quelqu'un de sortir de l'enfer. S'il entre en enfer, parmi les croyants, parmi lesquels la multiplication des bons compagnons, que de marcher avec des farceurs, des calomniateurs, des menteurs, des voleurs, des trafiquants, il faut marcher avec les croyants. Parce que dans des hasards, lorsque les gens seront au paradis et qu'ils ne vont pas voir certaines personnes, ils auront demandé à Allah, il y avait un tel, on ne le voit pas ici. Allah va dire, il est en enfer, allez l'enlever en enfer. C'est pourquoi Ibn Jawzi, il était en train de faire un prêche un jour. Vous connaissez bien l'éloquence d'Ibn Jawzi. Il s'assied qu'il y a une rubrique qui coulait qui disait, si Shaitan s'assied à ses assises, il allait faire tawba. Il avait beaucoup d'éloquence, subhanallah. Il a dit à ses étudiants, si vous ne me voyez pas au paradis, allez dire à Allah que vous étiez toujours avec moi dans les assises. Ça fait la rique, hein? C'est ma salah wa wa yani. Mais le sud de l'istighfar, c'est le mal shahid. Allah rassemble dans ça entre l'invocation avec Allah et l'invocation avec Arab. Allahumma. Qu'est-ce que dit Allahumma? Ya Allah. Allahumma ante Rabbi. Subhanallah. Quelle éloquence. La mukaddima même de la dua. On sent la profondeur de l'invocation. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Fouf, cet isbat kawiyya jiddan. Khalaqtani, tu m'as créé. Comme cela nous renvoie dans le Coran, dans sourate al-Baqara, ya ayyuhan nas a'budu rabbakum alladhi khalaqakum wal ladhina min qablikum khalaqtani wa ana 'abdukum. Jusqu'à la fin de cette dua azim, Allah azala fait le shumul. Yani le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné de rassembler entre l'invocation ya Allah. Et puis, n'est-ce pas, c'est-à-dire le wasf d'Allah par le nom Rab, Allahumma anta Rabbi. Fafilakika, on adore Allah subhanahu wa ta'ala avec ses noms. Et ces noms-là doivent aussi être dans le munasaba. D'où la mise en garde contre certains livres soufites, des gens du tasawuf, qui forcent des mensonges sur Allah et des mensonges sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On veut dire aussi des mensonges dans l'islam. Ils écrivent des livres qui sont répandus comme des morceaux de pain, malasas, dans des marchés. Celui qui récite Ar-Rahman 250 fois, il aura ceci. Celui qui récite As-Salam 500 fois, il aura ceci. D'autres sont allés très loin. Tu récites 10 000 fois un nom. Comment tu vas réciter 10 000 fois un nom? 10 000 fois un nom. Et tu n'as que ça à faire. Ça veut dire que tu ne peux pas faire la prière, tu ne peux pas faire ceci. Tu vas faire ça comment? Allahu A'lam. Toutes ces choses-là sont des kalam farik wa batil wa maghoub. L'invocation avec le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est sur le munasabat. Tu amènes le nom qui convient à la requête. Allahumma rzuqna fa innaka razzaq. Ça voilà. C'est ça. Allahumma ghfir lana fa innaka al-ghafur al-ghaffar. Tu demandes pardon, tu es pardonneur. Tu demandes la suffisance, tu es le pouvoir. Tu demandes ceci, la force, tu es al-ghalaba. Tu demandes ceci, wahakaza. Tu viens avec, comme on a vu dans le Coran, Rabbana taqabbal minna innaka anta as-sami' al-alim. Wallahi, cette dua là. Parfois nous l'entendons chez nos imams. dans les kounous de Ramadan, on l'entend parfois chez nos frères, auquel lorsque quelqu'un fête lui-même le Coran, ça fait verser des larmes abondantes à un savant. C'est là qu'ils lisent le Coran, pas comme nous. Ils lisent le Coran avec le cœur. Il dit Khalil Rahman, Yabni Beti Rahman, bi amrihi, thumma yat'aul kaboul. L'ami intime d'Allah construit la maison d'Allah sous l'ordre d'Allah et demande à Allah d'accepter. Subhanallah, yani. Le cheikh, il est ému. Ça, c'est l'émotion. Allah demande à Ibrahim de construire la maison. Ibrahim n'hésite pas. Il se lève avec son fils Ismaïl. Et il fait Ibrahim al-Kawaid min al-Bayt. Et Ismaïl, Rabban al-Takabbal mina. Il se lève avec son fils pour demander à Allah. Ils exécutent, mais demandent à Allah d'accepter. Dans les anciens livres de tafsir, certains des cheikhs disaient que, comme c'était Ibrahim qui alliait les pierres, mais Ismaïl lui donnait les pierres, Ibrahim al-Islam n'a jamais posé une pierre, sauf qu'il dit Rabban al-Takabbal mina, inna kanta samir al-Him. C'est ma qu'Allah sur le nom d'Allah Azzel. Si on a parlé un peu de la définition, on a parlé un peu de Ka'ab. Finissons un peu avec les Asar. Les Asar. Parce que ces noms-là doivent avoir un impact. Il faut donc comprendre, très cher frère, le taqfi mujarrad at-talaffuz. Il ne s'agit pas seulement de prononcer les noms d'Allah. La abadan. La Bouddha min al-istishar biha wa ma'aniha. Il faut, n'est-ce pas, c'est-à-dire ressentir, n'est-ce pas, c'est-à-dire ces noms. Et aussi l'essence. Aussi l'essence. C'est pourquoi les savants nous font des révélations sur le nom d'Allah qui dresse les cheveux sur la tête de quelqu'un. Quand vous prenez la sourate Al-Fatiha, la première chose qui vous confronte, c'est le nom d'Allah. Cinq noms sont dans la sourate Al-Fatiha. La foule, ça veut dire que tous les jours de ta vie, tu auras une relation avec le nom d'Allah. Tous les jours de ta vie. Et vous avez dans la sourate Al-Fatiha cinq noms. Alhamdulillah, Rabb Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik, selon la lecture Malik, ça, tu confrontes ces noms d'Allah, Azizel. Regardez le nom d'Allah, Ar-Rahman. Les savants disent Rahma, Wasi'a, parce que le Wazn Sarfiya Fa'lan, ça connaît toujours la mansitude, quelque chose de très immense, Jaw'an, Rabban, Ka'ban, Katlan. Ça connaît, n'est-ce pas, ça dit Jaw'an, très affamé, Ghadban, très en colère, Wahakaza. C'est sur la forme de Fa'lan, et c'est la même chose avec Ar-Rahman. Vous savez que ce nom Ar-Rahman, on ne peut pas le donner à une créature avec le nom Al-Jalal Allah. Mais les savants vous disent que le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala Al-Ghafour est meilleur que le nom d'Allah Ar-Rahman. Pourquoi? Parce que lorsqu'Allah va jeter les gens en enfer, il sera toujours Ar-Rahman, ça ou là. Mais lorsqu'Allah a pardonné les péchés de quelqu'un, il ne châtie plus la personne. وَمَا كَانَ اللَّهُ يُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Allah n'est pas celle qui châtie les gens qui implorent son pardon. Si quelqu'un implore le pardon d'Allah, Allah ne le châtie pas. Ali ibn Abu Talib dit في هذه الآية أمانان. Dans ce verset, vous avez deux sécurités. Une s'en est allée, il reste une seule. La première sécurité dans ce verset, c'est la présence du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam parmi les gens. Allah ne peut jamais châtier un peuple si le prophète sallallahu alayhi wa sallam est là. Mais comme Allah n'a jamais donné l'éternité à un être humain, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort en un jour connu. Une mort annoncée par Allah, tasrihan, n'est-ce pas, c'est-à-dire de manière tranchée et de manière sous-entendue, chez les grands sahabes qui comprenaient certains versets, ils ont dit à Nasrullah et Walfat, certains d'entre eux disaient que ça c'est la mort du messager d'Allah. Al-Yom Akmaltu lakum dinakum. Omar ibn Khattab s'est mis à pleurer parce qu'il avait compris que ce verset annonce la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et des versets âmes, kullu nafsin dhaiqatul maut, tout homme doit goûter à la mort. Et maintenant des versets tranchés, Allah dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, innaka mayitun wa innahu mayitun. Dans cette moment tu vas mourir. Allah n'a jamais donné l'éternité à quelqu'un, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort. Sa mort était un lundi, ça voilà, connu. Et il est enterré dans un endroit connu. Beaucoup de gens disent que c'est le seul prophète dont on connaît exactement le lien où on a enterré. Tout ce que vous lisez d'internet, la tombe d'Adam, la tombe de ceci, effacez ça dans votre vie, c'est des kalam farig wa batil wa madoud. Et les gens qui font le pèlerinage dans tous ces endroits font le pèlerinage de Shaitan. Aucun prophète n'est enterré dans ces endroits. Bal, à Hébron, ce n'est même pas la tombe d'Ibrahim à Khalil, c'est plutôt la tombe de Muawiyah. Mais beaucoup pensent que c'est Ibrahim qu'on a enterré à cet endroit. Waqtu azan. Donc, comme nous signifions, chers frères, chers parents, ce nom d'Allah subhanahu wa ta'ala ne consiste pas seulement des propos qu'on prononce avec la langue. La Bouddha mina ta'allum, il faut étudier ce nom-là. Une étude pertinente. Et puis maintenant, il faut connaître le sens de ce nom. Ce sont des noms en langue arabe. Même si on ne connaît pas le comment, au moins le sens, qu'est-ce que ça signifie, il faut connaître. Parce que Al-Kaifiyya, ça c'est autre chose. Mais le sens, il faut connaître. Comme Imam Malik a dit, Al-Istiwa Ma'loum. Et maintenant, il faut invoquer Allah Azzial avec ses noms sur tout endroit convenable. Quelqu'un ne peut pas demander à Allah Azzial, oh Allah, châtie tous tes ennemis qui obstruent ton chemin et qui maltraitent les musulmans. Si là, car tu es très compatissant, très doux, très miséricordieux. Là, ça ne va pas ensemble ici. Parce que tu es en train de demander à Allah de châtier, tu n'as même plus la douceur et la compassion. Parce que les deux ne vont pas ensemble. Il faut venir avec des noms convenables n'est-ce pas, c'est-à-dire la requête. Et puis aussi, Imam Malik dit qu'à son époque, il avait suivi des imams. Les imams qui priaient contre les koufars, ce n'est pas haram. Peut-être ce que les savants ne veulent pas, c'est de demander à Allah d'exterminer tous les koufars, comme dans le cas de Nuh alayhi salam. Parce que lui, il était informé qu'il n'y aura plus de croyants. Il y a parmi les koufars dont les cœurs sont agaillés. Mais ceux qui obstruent le chemin d'Allah, qui maltraitent les musulmans, qui torturent les musulmans, avec ces gens-là, je ne sais pas comment on va être doux. Il faut demander à Allah de s'occuper d'eux. La base. Mais si quelqu'un a le fable, qu'Allah les guide, Maman les guide, nous on a vu des imams qui invoquaient la contre des koufars qui obstruent le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le mal, le shahid, c'est que tu ne peux pas dire à Allah de châtier un ennemi qui obstrue son chemin et puis tu dis que tu es très docile, très compatissant, très miséricordieux. Là, c'est deux choses, c'est diamétralement opposé. C'est à cause de ça que si quelqu'un veut demander à Allah de pardonner ses péchés, nous sommes tous des pécheurs, nous avons cette liste de faire, nous avons aussi cette doua azim. Allah, quand je pense à cette doua, les cheveux peuvent se dresser sur la tête. Qui enseigne cette doua? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il enseigne à qui? Il enseigne à Abu Bakr Siddiq. Il dit à Abu Bakr Siddiq, Wallahi, il me dit cette doua. Quand tu finis de prier, il dit, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kithira. Wa la yaghfiru dhunub illa ant. Faghfir li maghfiratan min indik. Warhamni innaka antal ghafurur rahim. Subhanallah. Abu Bakr Siddiq, Siddiq al-Akbar. Radiallahu anhu warda. Le Messie Allah me dit, quand tu as fini de prier, dis Allah, oh Allah, j'ai fait beaucoup d'injustice à moi-même. Abu Bakr Siddiq, si c'est lui qui invoque Allah avec des formules comme ça, il ne nous reste que nos larmes. Ou comment? Fais-le. C'est askar que le messager d'Allah nous enseigne, qu'on trouve dans le Coran. Lorsque quelqu'un a commis des péchés, nous sommes tous des pécheurs, revenons vers Allah avec ça. Lorsque quelqu'un veut la royauté, tu sais que des grands imams, comme le cheikh Moussi, ils ne veulent pas la royauté. Est-ce que c'est haram, la royauté? En tout cas, Suleiman a demandé la royauté, Allah lui a donné. Avec le nom Al-Wahhab, si vous avez besoin, n'est-ce pas, c'est-à-dire de quelque chose, de la royauté, la souveraineté, invoqué par le nom Al-Wahhab. Regardez, une seule doua, le monde entier était sur les pieds de Suleiman. Les djinns qu'Allah a créés, qui fauchent, qui causent des dommages, étaient au service de Suleiman. La doua, Allah. Beaucoup d'entre nous ont simplifié la doua. Lorsqu'on a un vrai problème qui nous tient à cœur, les coups de fil passent. Chèque. Des bosses viennent souvent prier dans votre mosquée là. Tu as les relations avec un ministre, tu as les relations avec un juge. Aouzoubillah. Tu laisses Allah Azzel, tu cherches d'abord des causes douniaouilles. C'est quand le dunya te frappe que tu dis que tu viens en dernier recours chez Allah. Là, il faut commencer par là. La doua est dans tout. Il faut invoquer en faveur des enfants. Allez, le prophète Zacharie demande à Allah de lui accorder un enfant. Surtout quand il a vu ce qu'Allah faisait, il donnait à Maryam des fruits qui ne correspondaient même pas avec les saisons. C'est là que Zacharie a pris l'initiative de demander à Allah un enfant. Celui qui a besoin d'enfants, ce n'est pas tout homme marié qui a des enfants. Lakin Allah est capable de faire venir. Tout ce dont on a besoin, Le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala nous suffit. Nous ne serons dans aucune situation, sauf si on trouvera un nom d'Allah pour prier pour cette situation. Si on est malade, Ayoub alayhi salam, Ayoub, il était gravement malade, il s'est retourné vers Allah. Inni masaniya dur wa anta arhamur rahimin. Alladhina wajadnahu sabira, ni'mal 'abd innahu awwab. Il est très repentant, Ayoub alayhi salam, il est très patient et demande à Allah de lui accorder la paix. Le Prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demanda Allah matin soit la bonne santé, Allahumma inna as'aluka al-'afwa wal-'afiya. Matin soit sallallahu alayhi wa sallam. Nous ne serons dans aucune situation dans le monde sauf si un nom d'Allah sera approprié pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala, n'est-ce pas, nous embellisse de sa générosité, car ce nom d'Allah azzal doit avoir un tafsir. Mais lorsque nous implorons Allah par ce nom, on doit être bien assis, on doit bien méditer, on doit estimer la lourdeur de la mention, on doit estimer les choses à leur juste valeur, on doit se faire humble devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et on doit invoquer comme le Prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne, « Udu'u Allah wa antum mukinun bil ijaba » Invoquez Allah ayant la certitude qu'Allah azza wa jal va vous exaucer. N'est-ce pas celui qui dit « Iza sa'alaqa ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wat ida da'an » Mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, dit « Je suis proche » Allah ne dit même pas « Dis-leur » Allah lui-même répond « Je suis proche » Je réponds à celui qui me demande quand il me demande. Voilà la terre de cadre de kifaya. والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك